Comme on le dit trivialement, le morceau, il arrache. C'est Aura Sandy, Mamie Blue, et il reste qu'une place à gagner, puisqu'il y a une place déjà gagnée à l'instant, là, pour Aura Sandy, ce soir au 106. Hein, si vous voulez une place gratos, mais appelez 02-35-12-00-92, et ça part. Derrière, à venir sur le Mix et Culture, dans le mieux vaut tard que jamais, on parlera développement durable avec Rebecca Armstrong. Mais allez, on termine les dernières notes d'Aura Sandy, parce que le morceau, il arrache vraiment.
Vous écoutez HTR.
Et tous les mardis, on retrouve Rebecca Armstrong. Rebecca Armstrong, c'est la chronique développement durable du Mix des Cultures. Bonjour Rebecca.
Bonjour Moïse. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'agriculture. Alors pas d'agriculture en France, mais d'agriculture à l'étranger et tout particulièrement en Afrique. Parce qu'en fait, je voudrais parler d'une situation qui est assez critique, ou en tout cas qui pourrait amener à des situations assez difficiles. L'association Les Amis de la Terre, je ne sais pas si vous la connaissez, en fait, vient de publier un rapport intitulé « Afrique, terre de toutes les convoitises ». Et cette association dresse un constat assez alarmant. Donc clairement, les faits sont ceux-ci. Des fonds d'investissement, des multinationales ou des pays riches tels que la Chine, l'Inde ou les États du Moyen-Orient achètent des terres agricoles en Afrique. Alors quel est leur objectif? Il est double. Premièrement, assurer la sécurité alimentaire de leur propre pays d'origine, tout simplement en maîtrisant la chaîne d'importation. Parce que lorsque l'on est propriétaire des terres, même à l'étranger, les risques de fluctuation des prix, de volatilité des prix, est beaucoup moindre. Donc voilà, c'est la sécurité alimentaire. Et puis, deuxième objectif, c'est de se générer des revenus en diversifiant les débouchés agricoles, notamment vers les agrocarburants. Alors là, vous le savez, hein, les débats sont riches, sont vifs sur ce point. Est-ce qu'il faut priver des millions de personnes de denrées agricoles de première nécessité pour produire des carburants qui vont permettre clairement aux Occidentaux, aux Européens, de se déplacer toujours plus, alors certes peut-être en polluant un peu moins, mais voilà, de continuer à nous à avoir nos modes de vie, de consommation, de déplacement, pousser toujours vers une évolution exponentielle. Et d'ailleurs, dans ce rapport des Amis de la Terre, l'Europe est largement pointée du doigt, puisque, je vous donne un chiffre, 5 millions d'hectares auraient été sacrifiés au nom des objectifs européens de part d'agrocarburants pour les transports en France et en Europe. Alors, pour vous donner une idée, l'objectif européen, c'est d'avoir 10% d'agrocarburants qui est utilisé par les voitures, par les bus, etc. d'ici 2020. C'est vrai que cet objectif est louable, mais lorsque l'on ouvre son regard, les conséquences peuvent être dramatiques dans d'autres endroits de la planète. Alors évidemment, l'impact de ces pratiques, il est assez clair. Les agriculteurs locaux de proximité sont chassés de leurs terres, ou au mieux deviennent des ouvriers de leurs anciennes fermes. C'est guère réjouissant de les voir écartés de leurs propres outils de production. Et puis en plus, ces pays qui finalement, ces pays du Sud, voient leur production agricole peut-être augmenter, sauf que cette production part à l'étranger. Et finalement, pour nourrir les paysans, les habitants dans les localités, les pays doivent importer des denrées alimentaires qui sont souvent à des prix prohibitifs. Et donc voilà, on jette dans la misère des personnes qui avant avaient une agriculture de proximité, de subsistance. Alors cette pratique plus que douteuse, évidemment, la communauté internationale lui a donné un nom anglophone, c'est ce qu'on appelle le land grabbing. Le plus parlant peut-être de tout ça, c'est que cette pratique s'est largement développée depuis 2008, alors qu'en 2008, c'est une année qui a été largement marquée par la crise alimentaire, et on a entendu parler d'énormément d'émeutes de la faim sur toute la planète. Alors, pour rappel, en Asie, il y a eu des émeutes en Indonésie, aux Philippines, en Afrique du Nord, en Égypte, au Maroc, en Afrique subsaharienne, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On se souvient très bien de ces images de personnes qui réclamaient tout simplement de quoi se nourrir. Alors, je vous donne beaucoup de chiffres qui sont pas très réjouissants, mais je pense que c'est important de vous donner ces ordres d'idées-là. Depuis 2007, 15 à 20 millions d'hectares ont été l'objet de transactions internationales, et principalement en Afrique. Alors, j'ai des exemples très précis à vous donner. La Chine a acheté 2,8 millions d'hectares en République démocratique du Congo pour la culture de l'huile de palme. La Chine a également acheté 60 000 hectares au Sénégal pour la culture du sésame. Et lorsque ces terres ne sont pas achetées, à la rigueur, elles font l'objet de baux emphytéotiques, c'est-à-dire de locations à très long terme. Alors évidemment, j'essaye quand même d'avoir un regard un peu objectif, ces investissements peuvent présenter certains avantages. Le fait que ces grands projets soient réalisés dans des pays du Sud, ça permet d'avoir recours en fait à du matériel moderne pour la production agricole. Ça permet également donc d'augmenter la productivité de ces terres. Mais la difficulté, c'est que ça crée aussi des emplois, mais est-ce que ça se fait au détriment uniquement des populations locales ? Tout l'enjeu va être là. Alors, il y a même certains commentateurs, journalistes ou éditorialistes qui parlent de spoliation de ces terres. Alors, je ne sais pas si le terme est trop fort, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est important, voilà, c'est que les intérêts de ces paysans, de ces agriculteurs locaux puissent être défendus. Alors, on peut rêver un peu. Je vous propose que l'on imagine une charte de bonne conduite, une charte de développement durable pour ces investissements internationaux, parce que du jour au lendemain, ils ne vont pas s'arrêter. Mais il serait peut-être intéressant que, lorsque ce type de transactions sont passées, que l'on pose certains principes, comme le recours massif à la main-d'œuvre locale, l'affectation d'une partie des récoltes au marché local pour continuer à faire vivre les localités, la formation, l'alphabétisation des ouvriers sur ces exploitations agricoles, également l'investissement d'une partie des revenus dans le développement des localités. On sait que dans les pays du Sud, en termes d'infrastructures routières, scolaires, de santé, il y a énormément de besoins. Et également que ces exploitations utilisent des pratiques agricoles durables. C'est vrai que c'est peut-être un peu utopique aujourd'hui, mais en tout cas, il faut rêver. Alors, pour revenir pondérer ce que je viens de dire, la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a également mené une étude sur ces transactions internationales concernant les terres agricoles. Et apparemment, en tout cas, ce qu'elle relève, c'est que les contrats qui sont passés entre les États, les fonds de pension ou les entreprises à l'international pour l'achat de ces terres, ces contrats sont extrêmement opaques, voire inaccessibles. Donc cette charte de bonne conduite qu'on appelle de nos voeux ici sur l'antenne de HDR, elle n'est peut-être pas pour demain, mais en tout cas, voilà, c'est important de parler de ce sujet-là et de se rapprocher des associations, des organisations, des ONG qui essayent de militer contre ces pratiques un peu désastreuses pour les populations des pays du Sud. Voilà Moïse, à la prochaine.
Et à la prochaine, Rebecca, et on vous retrouve l'année prochaine, début janvier, pour cette chronique Développement durable, une chronique que vous retrouverez, ces chroniques d'ailleurs que vous retrouverez toutes sur le nouveau site du Mix et Culture, www.radiohdr.fr, à partir de la rentrée, ce site tout chaud, tout beau, tout nouveau, que vous retrouverez, et vous retrouverez toute la radio dedans, tout, même la programmation musicale. Allez, on file avec les Paris Combo, moi, mon âme et ma conscience, c'est le